Radico Libre. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radico Libre, dont vous pouvez trouver les derniers opus sur la page Radico Libre sur le site radioalpa.com. Une émission avec la gorge qui gratte, il paraît que c'est de saison. On aurait pu vous parler des activités de plein air le samedi 23 octobre. 250 personnes représentant tout plein d'associations se sont retrouvées devant la préfecture pour dénoncer l'implantation d'éoliennes industrielles. Alors parmi les 250 personnes, on trouve des élus encharpés de bleu, blanc, rouge, des notables en veste de chasse, mais aussi des Pékins moyens, banals dans le bon sens du terme, des citoyens juste engagés pour leur bled. Leur bled menacé par des éoliennes industrielles, vous savez, les fameuses écotechnologies. Oui, et malheureusement, il y a toujours le mot technologie dans écotechnologie et des technologies industrielles qui, de fait, ont une petite vocation à générer de quoi ? Eh bien, du cash, puisque le but, c'est quand même encore et toujours de continuer à faire du profit dans ce monde cruel. On en reparlera encore un peu tout à l'heure avec André Gorz. Eh bien, leur bled menacé par des éoliennes industrielles implantables un peu partout, par exemple en forêt, sur des zones Natura 2000 et notamment à Coudrecieux, dans l'est du département de la Sarthe. D'ailleurs, un tract circulait dans la manifestation, distribué par un certain monsieur Gonnet, vice-président de l'association Vendée-Bois, apparu en 2017 pour lutter contre l'implantation des éoliennes à Coudrecieux. En face, le promoteur avance ses arguments et ses informations. Du coup, un petit tract pour répondre pied à pied. On écoute Jean-Pierre Gonnet.
On a fait ce flyer pour répondre point par point. Sur les rues du village, vous voyez, on est précis, on est très local. Évidemment, le promoteur, il a des considérations générales, évidemment, sur les énergies renouvelables, etc. Il dit qu'il n'y a pas de problème, qu'il y aura une compensation des impacts, etc. Et évidemment, les habitants, ils sont les premiers concernés. C'est là-dessus donc, qu'on a accentué notre propos sur toutes les nuisances qu'il peut y avoir. Et puis, en fait, ce n'est pas un projet écologique. En fait, c'est ça, c'est en forêt. Et c'est ça, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Ce n'est pas un projet écologique.
Allons bon, monsieur Gonnet n'y va pas de main morte des éoliennes et ce ne serait pas écologique. Mais pourquoi ça ? On continue à l'écouter. Je vous rappelle qu'il représente l'association Vendée-Bois qui est vent debout. Ouais, j'en suis pas mécontent. Vent debout contre l'implantation d'éoliennes à Coudrecieux.
On est en forêt, donc ça veut dire qu'il va falloir faire des fondations de 1500 tonnes de béton par éolienne. Donc vous voyez, multiplié par 12, ça fait plus de 20 000 tonnes de béton dans la forêt. On va falloir déforester définitivement autour de chaque éolienne. Et puis, il y a le dérangement des animaux, il y a les problèmes des chauves-souris, des chiroptères. La LPO, la Ligue de protection des oiseaux, est vent debout contre ce projet. Donc ça prouve qu'il y a des associations environnementales qui sont contre, bien sûr, totalement opposées. L'éolien, ça peut être bien, c'est comme tout. Si c'est implanté dans un lieu qui est propice, qui ne fasse pas de dégâts, c'est un moyen de produire de l'électricité comme un autre. Mais là, il y a un problème, c'est au niveau de la forêt. Et pour nous, on n'accepte pas que cette grande forêt, cette forêt fait 1300 hectares, elle fait partie d'un massif qui fait 6500 hectares, ça s'appelle le massif forestier de Vibray. C'est la plus grande forêt de la Sarthe et on n'accepte pas qu'elle soit impactée, que la biodiversité soit impactée de cette façon. Tout ça pour des promoteurs qui n'ont que des objectifs financiers, évidemment. Et ils n'ont aucun objectif environnemental. Pour eux, évidemment, s'il s'agit de gagner de l'argent. Voilà, on n'a
pas. 1500 tonnes de béton pour le socle par éolienne, de la déforestation encore. Et en plus, au bout de 20 à 25 ans, l'éolienne doit être démantelée. Et pour l'instant, il n'y a pas de filière. Donc les pales, une partie du mât sont coupées en morceaux et enterrées. Quant au socle, allez concasser du béton armé pour comprendre qu'il est souvent préférable de le laisser en l'état. Tout ça pour faire du pognon. Un pognon à partager entre le promoteur, la commune et le propriétaire.
La forêt, elle appartient bien à quelqu'un. Oui, alors comment se fait-il qu'on puisse y construire des éoliennes ?
Ce quelqu'un dont vous parlez, c'est lui qui a pris accord avec le promoteur. Ça va lui rapporter de 7 à 8 000 euros par éolienne, par an. Donc voilà, malheureusement, c'est un intérêt purement financier. C'est vraiment navrant. voilà. Donc, et nous, en plus, on est un petit village, on est dans une cuvette, si vous voulez, qui est entourée par cette forêt sur des collines. Hein. Donc, on aura un impact visuel considérable. C'est-à-dire que notre village va être dénaturé, son paysage va être défiguré. Alors que c'est un petit village où tout le monde apprécie le cadre de vie, le bien-être. D'ailleurs, depuis le Covid, là, moi, j'ai été sollicité par beaucoup de Parisiens qui m'appellent, qui sont inquiets du projet éolien, mais qui aimeraient bien s'installer à Coudrecieux. Parce qu'il y a encore du silence, des nuits étoilées, toute cette qualité de vie qui va être rayée de la carte.
La qualité de vie contre le niveau de vie, la valeur inestimable du silence, du paysage, de nuits étoilées contre des euros. Eh bien, ce ne sont pas toujours les euros qui gagnent, puisque le projet éolien de JP2E en forêt de La Pierre a été recalé donc par le préfet de la Sarthe dans un arrêté du 20 octobre 2021. Mais le promoteur a 4 mois pour faire appel. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet des éoliennes, il existe des documentaires qui ne sont pas forcément faits par des complotistes anti-écolos. Et il existe également un blogspot de Vendée Bois, vent-des-bois, pour savoir comment ça continue dans cette partie de la Sarthe à l'Est, Coudrecieux en l'occurrence. On aurait pu vous parler de la schizophrénie au pouvoir. Tiens, les auditeurs de la dernière émission ont tout à coup une impression de déjà entendu. Il faut dire qu'à chaque semaine suffit sa peine et cette semaine a débuté la COP26 à Glasgow, une conférence de l'ONU sur les changements climatiques, une de plus. Elle sert notamment à vérifier comment les pays qui avaient signé l'accord de la COP21 de Paris en 2015 s'en sortent avec leurs engagements. Souvenez-vous, la France utilise des lois antiterroristes pour arrêter des écologistes qui veulent manifester. Mais la grand-messe se déroule très très bien, les photos sont bonnes, plein de dirigeants, parce qu'on les laisse faire, sont sur la photo en question. L'accord non contraignant prévoit par exemple pour la France baisse de 40% des émissions de gaz à effet de serre, le fameux GES, d'ici à 2030. Et la neutralité carbone en 2050 pour participer à la limitation de la hausse moyenne des températures sur toute la planète à 1,5 degré. Alors, rapport d'étape en 2021, ça commence mal. Ben oui, parce qu'il y a quelques mois, la France a été condamnée par ses propres tribunaux à respecter ses engagements après la plainte du collectif L'Affaire du siècle. Le Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction administrative, a infligé une amende de 10 millions d'euros à l'État parce que la France ne lutte pas assez contre la pollution de l'air. Bon ben voilà, tout est dit, la fontaine est toujours à l'honneur quand il s'agit du respect d'engagement de nos soi-disant représentants. Hein. Un corbeau, un renard, et n'oubliez pas ce que dit le renard à la fin. Et pourtant, ils essaient encore de nous enfumer. Et là, c'est dans le monde entier, puisque la COP26 de Glasgow va encore accoucher d'un accord pour encore temporiser. Ah ben là, c'est sur le méthane. Waouh, 100 pays d'accord pour réduire de 30% leurs émissions de méthane. Ils sont d'accord. Seulement, une donnée n'est pas abordée dans les débats, jamais. Le système économique capitaliste et la société de consommation qui va avec. Tout le monde, y compris nos soi-disant représentants, sait que le modèle du gaspillage des ressources pour produire et donc vendre toujours plus n'est pas viable. Ne l'a jamais été, ne le sera jamais. Et pourtant, aucune remise en cause de ce modèle n'apparaît dans les discussions. Non, non, des accords sur réduire ceci, sur augmenter cela, sur... Mais pour remettre en cause la façon dont, véritablement, nous agissons à l'encontre notre environnement, rien. En septembre 2021, l'ONU a constaté officiellement que la trajectoire du réchauffement climatique se situait à 2,7 degrés à l'horizon 2100. Il faut dire qu'en moyenne, les gaz à effet de serre ont augmenté de 1,5% entre 2015 et 2020, alors que pour respecter l'accord de Paris de 2015, il devrait descendre de 7,6% chaque année. Chaque année de retard est donc cruciale pour l'avenir, mais chaque année, la COP s'avère être une gigantesque foire à l'investissement vert, l'investissement décarboné, l'investissement écologique dans les fameuses éco-technologies. Le capitalisme vert reste du capitalisme. Et il n'y aura jamais assez de ressources sur toutes les planètes de l'univers pour satisfaire le délire d'accumulation de quelques-uns. Alors, à noter quand même la journée mondiale pour la justice climatique, c'est le samedi 6 novembre pour les auditeurs du direct. Et à partir de 15h, place de la République à Le Mans, à l'initiative d'Europe Écologie Les Verts, une manifestation. On aurait pu vous parler également de la magie. Ah, la magie. Souvenez-vous.
Je vais vous faire une confidence. J'aime l'industrie. J'aime l'industrie parce que c'est un des rares endroits au XXIe siècle où on trouve encore de la magie.
On l'entend bien, la magie, là. L'usine, l'atelier, la machine, le tapis roulant, la chaîne qui donne le tempo, la cadence. Et tout ça, eh ben, c'est pas pour danser. Alors, à force de faire le même geste encore et encore dans les usines de l'industrie, fidèle à son poste, l'ouvrier se bousille la santé. En 2016, dernier chiffre trouvé, 50 000 cas de maladies professionnelles ont été diagnostiqués pour tous les salariés au régime général. Donc, pas les paysans ni les indépendants. Ils sont pas comptés là-dedans. Sur les 50 000 nouveaux cas, 44 500 sont liés au TMS. Les TMS, mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont les troubles musculo-squelettiques. Appelons-les comme les Québécois, parce que les Québécois appellent ça les lésions attribuables au travail répétitif. C'est tout de suite plus parlant que troubles musculo-squelettiques. Ce sont donc toutes les pathologies des tissus mous, muscles, tendons et nerfs, qui sont trop souvent sollicités par un mouvement, une posture, un geste, trop souvent répété pour gagner sa vie. Alors on peut se taper des tendinites aux mains, des tendinites aux doigts, aux poignets, aux coudes, des tendinites à l'épaule, des tendinites aux genoux, et j'en passe, des hygromas, c'est-à-dire des gonflements des coudes et des genoux, parce que le corps est bien fait, il possède des petites bourses pleines de synovie pour faciliter le travail des articulations. Mais si on lui en demande trop, eh bien le corps réagit. Et ces petites bourses pleines de synovie deviennent plus grosses et douloureuses par inflammation. On peut également se taper le fameux syndrome du canal carpien, à force d'appuyer son avant-bras sur le bord du bureau, parce que les TMS ne touchent pas que les ouvriers de l'industrie. Mais devinez quand même, quel est le trio de tête des activités pour la fréquence des troubles musculo-squelettiques ? Eh bien, en premier, l'industrie des fabrications d'aliments, de boissons et de produits à base de tabac. En deuxième, les fabrications, donc encore dans l'industrie, fabrication textile, industrie de l'habillement, cuir et chaussures. Et troisième ex aequo avec les métiers de la construction, où là aussi, on ne se marre pas trop. Donc avec les ouvriers du bâtiment, eh bien là ce sont les industries de fabrication de produits caoutchouc, de produits plastiques et autres produits minéraux non métalliques. Alors, camarade ouvrier, quand tu auras peut-être des tendinites à répétition qui t'empêcheront de vivre ta vie, mais n'oublie pas.
Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie.
Bon, finalement, on a préféré vous parler d'un certain André Gorz. André Gorz, ingénieur chimiste de formation et finalement philosophe marxiste et sartrien, est venu à l'écologisme par critique du capitalisme et du gaspillage inhérent à ce modèle économique. Un modèle basé sur la production. Une production à outrance née avec le monde industriel. Un monde où tout doit devenir marchandise. Pour assurer encore et toujours, du profit. Une maximisation du rapport du capital investi. Cependant, en 1972, quand André Gorz intervient lors du colloque sur la croissance économique et le rapport du Club de Rome, qui est appelé aussi le rapport Meadows, intitulé « Halte à la croissance », André Gorz, disais-je, constate déjà une crise du capitalisme et de la croissance du PIB. Je cite. Il est un autre type de non-croissance qui, lui, n'est pas utopique. Parce qu'avant, il parlait d'un autre. Il s'agit de la crise de l'économie capitaliste. Crise qu'il ne faut pas confondre avec son collapsus, avec sa mort brutale. L'arrêt de la croissance, en effet, ne signifie qu'une chose. Le capital dans son ensemble se trouve dans l'impossibilité de s'accroître. Il est voué à la stagnation ou même au déclin en raison de la baisse du taux de profit. Toutefois, cet effondrement du taux de profit n'est qu'une situation moyenne. Elle ne touche pas tous les capitaux ni toutes les industries. Elle offre aux groupes les plus puissants, à ceux qui ont une position de monopole, la possibilité d'éliminer des entreprises plus faibles, d'accaparer leur part du marché et, à la limite, de monopoliser l'économie tout entière. Or, c'est bien à une situation de ce genre que se préparent actuellement des groupes monopolistiques les plus puissants. Ces groupes-là ne s'effraient pas outre mesure de la nécessité de lutter contre la pollution, de recycler des ressources minérales, de ménager et reproduire l'environnement. Bientôt, ils détiendront le monopole des équipements de dépollution, de recyclage et de production non polluante. Ils revendront ces équipements à un prix compétitif, à leur propre filiale, et à un prix différent, plus élevé, aux autres clients, s'assurant ainsi un surprofit. Dans un second temps, lorsque les autres clients auront été éliminés du marché, les groupes les plus puissants auront conquis le monopole de la production et de la vente de l'air dépollué, de l'eau potable, des minéraux recyclés, de l'environnement préservé, grâce à quoi un nouveau cycle d'accumulation pourra s'amorcer, fondé sur la capitalisation de la nature elle-même, sur la subsomption par le capital de la totalité des facteurs et des conditions permettant la vie sur Terre. La boucle sera alors bouclée. La loi du profit aura envahi les dernières enclaves de la nature. L'air lui-même sera devenu marchandise. Le totalitarisme du capital sera parachevé et avec lui, la monopolisation de l'économie. En 1972 déjà, André Gorz avait entrevu l'arnaque du capitalisme vert et des écotechnologies, qui, de fait, ne vise qu'à engendrer un nouveau cycle d'accumulation de profits. Cette motivation de la marchandisation du monde entier passe également par la mainmise sur l'ensemble des activités humaines. C'est pourquoi il a fallu, pour les capitalistes, inventer le travail. Oui, inventer le travail. Dans « Métamorphose du travail », qui date de 1988, André Gorz nous rappelle comment, au XVIIIe et XIXe siècle, le travail fut justement inventé. L'organisation scientifique du travail industriel a été l'effort constant de détacher le travail en tant que catégorie économique quantifiable de la personne vivante du travailleur. Cet effort a d'abord pris la forme d'une mécanisation, non du travail, mais du travailleur lui-même. C'est-à-dire la forme de la contrainte au rendement par le rythme ou les cadences imposées. Le salaire au rendement, en effet, qui eut été la forme la plus rationnelle économiquement, s'est originellement révélé impraticable. Car pour les ouvriers de la fin du XVIIIe siècle, le travail était un savoir-faire intuitif, intégré dans un rythme de vie ancestral, et nul n'aurait eu l'idée d'intensifier et de prolonger son effort afin de gagner davantage. La répugnance des ouvriers à fournir jour après jour une journée de travail entière fut la cause principale de la faillite des premières fabriques. La bourgeoisie imputait cette répugnance à, je cite, « la paresse », à l'indolence. Elle ne voyait d'autre moyen d'en venir à bout que de payer des salaires si faibles qu'il fallut peiner une bonne dizaine d'heures par jour tout au long de la semaine pour gagner sa subsistance. « C'est un fait bien connu », écrit par exemple Smith en 1947. James Smith, que l'ouvrier qui peut subvenir à ses besoins en travaillant 3 jours sur 7 sera oisif et ivre le reste de la semaine. Les pauvres ne travailleront jamais un plus grand nombre d'heures qu'il n'en faut pour se nourrir et subvenir à leurs débauches hebdomadaires. Nous pouvons dire sans crainte qu'une réduction des salaires dans les manufactures de laine serait une bénédiction et un avantage pour la nation et ne ferait pas de tort réel aux pauvres. Ainsi, pour couvrir les besoins de la main-d'œuvre stable, l'industrie naissante eut en fin de compte recours au travail des enfants comme à la solution la plus pratique. Car, comme le notait Ure, il est pratiquement impossible, passé l'âge de la puberté, de transformer les gens devenus. Il est pratiquement impossible, passé l'âge de la puberté, de transformer les gens venus d'occupations rurales ou artisanales en bons ouvriers de manufacture. Après qu'on a lutté un moment pour vaincre leurs habitudes de nonchalance ou d'indolence, ou bien ils renonceront spontanément à leur emploi, ou bien ils seront congédiés par les contremaîtres pour fait d'inattention. Ainsi, la rationalisation économique du travail n'a pas consisté simplement à rendre plus méthodique et mieux adapté à leur but les activités productives préexistantes. Ce fut une révolution, une subversion du mode de vie, des valeurs, des rapports sociaux et à la nature. L'invention au plein sens du terme de quelque chose qui n'avait jamais encore existé. L'activité productive était coupée de son sens, de ses motivations, de son objet pour devenir le simple moyen de gagner un salaire. Et voilà comment l'individu qui était socialement intégré à sa communauté devient un individu qui a pour simple but de gagner sa vie. Une activité qui n'a plus de sens, avec une compensation seule, la rémunération. Et avant alors ? Avant ce changement civilisationnel ? Écoutons cet extrait de l'émission À Voix Nue, animée par Marie-France Aznar, en 1991 sur France Culture.
L'indifférenciation de la notion de travail telle que nous l'employons nous joue de très mauvais tours. Nous avons pris l'habitude d'appeler travail tout et n'importe quoi. L'activité de la mère au foyer, comme j'ai déjà dit, aussi bien que le travail de la prostituée, l'activité du compositeur de musique, on parle du travail de l'écrivain, l'activité du peintre, du philosophe, tout cela est mis sur le même plan que le travail de l'ouvrier, lequel ne se distingue plus dans notre vocabulaire du travail, c'est-à-dire de l'activité du missionnaire. Or, il y a là des contresens manifestes et périlleux, car le travail au sens économique est quelque chose de spécifique, qui ne peut pas s'étendre indéfiniment à n'importe quoi. Il a pour caractéristique essentielle d'être une activité rémunérée, qu'on accomplit pour gagner sa vie, et dans laquelle ce qu'on gagne compte davantage que ce qu'on fait. Je ne dis pas que ce qu'on fait ne compte pas du tout dans les emplois rémunérés. Je dis qu'il y a une différence fondamentale entre ce qu'on fait par conviction, par vocation, par nécessité intérieure ou par goût, et ce qu'on fait pour gagner sa vie. Et qu'il y a une différence fondamentale entre l'activité du militant, de l'artiste, et le travail de l'employé, de l'ouvrier, du fonctionnaire, qui, le plus souvent, ne savent même pas ce qu'ils font au juste. Leur travail est plus une fonction qu'une action.
Ainsi, pour André Gorz, la complexification de la société par la spécialisation des tâches donne au travailleur, celui qui agit contre rémunération, plus une fonction qu'une action. C'est ce qu'il appelle l'intégration fonctionnelle. Extrait de « Métamorphose du travail », l'ouvrage de 1988 dont nous avons déjà relaté l'existence. À mesure que l'économie, l'administration, l'État, la science se différencient chacune et donnent naissance à des appareils complexes, leur développement et leur fonctionnement exigent une subdivision de plus en plus poussée des compétences et des tâches, une organisation de plus en plus différenciée, de fonctions de plus en plus spécialisées. Le fonctionnement d'ensemble de chaque appareil dépasse l'entendement des individus qui y concourent et même celui des individus, ministres, PDG, chefs de département, etc., qui formellement emporte la responsabilité institutionnelle. À mesure qu'elle se complexifie, l'organisation des fonctions spécialisées en vue d'une tâche qui les dépasse et les unifie en extériorité peut de moins en moins faire fond sur les motivations propres des agents à se conduire de façon rationnelle par rapport à cette tâche. Pour qu'ils coopèrent à l'accomplissement de celle-ci, il n'est plus possible de miser sur leurs dispositions, capacités et bonne volonté personnelle. Leur fiabilité ne sera assurée que par la codification, la réglementation formelle de leur conduite, de leurs tâches et de leurs rapports. J'appelle fonctionnelle une conduite qui est rationnellement adaptée à un but, indépendamment de toute intention de l'agent à produire ce but dont il a en pratique pas connaissance. La fonctionnalité est une rationalité qui vient de l'extérieur, à une conduite prédéterminée et prescrite à l'acteur par l'organisation qui l'englobe. Cette conduite est la fonction qu'il a à remplir et dont il n'a pas à mettre en question le but. Plus elle se développe, plus l'organisation tend à fonctionner à la manière d'une machine. Et nous voilà donc avec des personnes qui, sans être tout à fait consentantes, se retrouvent à agir d'une certaine manière. Pourquoi ? Parce qu'il y a la compensation du salaire. On retrouve là la source première de l'analyse gorzienne, si j'ose l'adjectif, la volonté de dénoncer les ressorts qui empêchent le sujet, vous, moi et les autres, d'agir de manière autonome. Afin de garantir la bonne marche du processus, d'accumulation de profits grâce au travail marchandise, celui que l'on vend contre rémunération, l'organisation sociale doit compenser l'autonomie perdue. Toujours dans Métamorphose du travail, on peut lire « Un modèle d'organisation fondé sur la subdivision fonctionnelle des tâches ne peut donc faire appel chez les travailleurs ni à la conscience professionnelle, ni à l'esprit de coopération. Il doit initialement recourir à la contrainte, par des lois contre le vagabondage et la mendicité, par l'obligation d'accepter le travail proposé sous peine de déportation, de travaux forcés ou de mort par inanition, et faire jouer ce que nous avons appelé des régulateurs prescriptifs. » Normes de rendement et horaires impératifs, procédures techniques à respecter impérativement. Il ne peut desserrer les contraintes que s'il peut motiver les travailleurs par des régulateurs incitatifs. Des régulateurs incitatifs à se prêter de plein gré à un programme dont la nature, le rythme et la durée sont programmés d'avance par l'organisation de l'usine ou du bureau, d'un travail qu'il est impossible d'aimer. Ces régulateurs incitatifs ne peuvent donc offrir dans le cadre de l'organisation fonctionnelle des tâches subdivisées que des compensations hors travail, aux contraintes, frustrations et souffrances inhérentes au travail fonctionnel lui-même. L'intégration fonctionnelle des travailleurs ne devient donc possible, la contrainte au travail ne peut être atténuée que lorsque, premièrement, la richesse sociale est suffisante pour que les compensations matérielles soient offertes aux travailleurs, et deuxièmement, lorsque les travailleurs acceptent de considérer leur travail comme un moyen de se procurer ces compensations. Nous avons vu que cette seconde condition a été difficile à remplir. Elle suppose que le travailleur préfère spontanément gagner plus plutôt que de travailler moins. Elle suppose donc qu'il soit éduqué, socialisé, de manière à prendre le salaire et ce qu'il permet d'acheter pour principal but et le travail pour principal moyen d'atteindre ce but. La socialisation doit donc opérer dans deux directions à la fois. Elle doit éduquer l'individu à adopter vis-à-vis du travail une attitude instrumentale du genre « ce qui compte, c'est la paix ». La paye même, qui tombe à la fin du mois. Et elle doit l'éduquer en tant que consommateur à convoiter des marchandises et des services marchands comme constituant le but de ses efforts et les symboles de sa réussite. Voilà donc le travailleur consommateur dans une situation un peu particulière. Selon André Gorz, le travail peut devenir simplement acceptable par la contrainte, mais ce système ne tenant pas longtemps, l'organisation sociale devra privilégier les régulateurs incitatifs. Continuons. Persuader les individus que les consommations qui leur sont proposées compensent largement les sacrifices qu'il faut consentir pour les obtenir et qu'elles constituent une niche de bonheur privé permettant d'échapper au sort commun, voilà qui est typiquement l'affaire de la publicité commerciale. Mais cette publicité-là n'est persuasive que si elle est privée. Il y a en effet une différence essentielle entre la publicité commerciale et la propagande. Celle-ci s'adresse à vous au nom de l'intérêt général, pour vous persuader qu'il est dans votre propre intérêt individuel de vous conduire selon l'intérêt supérieur de l'État ou de la nation. La propagande vous appelle donc à adopter une conduite qui ne correspond pas immédiatement et intuitivement à votre intérêt individuel. Et sur la nécessité ou l'avantage de laquelle l'État, en tant que dépositaire de la raison, doit vous éclairer. Elle vous appelle donc à aller dans un sens que vous n'adopteriez pas spontanément et vous désigne comme individu collectif qui a en commun avec tous les autres une réalité enveloppante, l'intérêt général, dont par commodité, paresse, égoïsme ou bêtise, il répugne à tenir compte. Dans la publicité commerciale, au contraire, un vendeur privé vous propose une satisfaction ou un plaisir privé, strictement et immédiatement individuel. Le message publicitaire tend à établir une complicité entre le vendeur et l'acheteur potentiel, en suggérant que l'un et l'autre ne poursuivent que leurs avantages privés et ont intérêt l'un et l'autre à écarter toute considération qui le transcende. Le seul but du vendeur est de procurer à l'acheteur potentiel un plaisir qui l'incite à un achat auquel rien ne l'oblige et que le seul but de l'acheteur doit être d'obtenir le plus grand plaisir possible. Les biens et services compensatoires ne sont donc pas par définition des biens et services nécessaires ou simplement utiles. Ils se présentent toujours comme contenant un élément de luxe, de superflu, de rêve qui, désignant l'acquéreur comme un heureux privilégié, le protège contre les pressions de l'univers rationalisé et l'obligation de se conduire de façon rationnelle. Les biens compensatoires sont donc convoités pour leur inutilité, autant ou même plus que pour leur valeur d'usage, car c'est l'élément d'inutilité qui symbolise l'évasion de l'acheteur de l'univers collectif vers une niche de souveraineté privée. Voici donc le travailleur consommateur réassuré dans son autonomie, ou plutôt dans l'intérêt de sa servitude volontaire. Le travail marchandise a un sens, pouvoir acheter ce qui vous rend privilégié. Avoir devient le but, le seul qui compense. Seulement, André Gorz l'analyse dans ses ouvrages sur le travail, eh bien du travail marchandise, celui que l'on vend contre salaire, il n'y en a plus pour tous. C'est ce que nous verrons la prochaine fois. On a juste le temps de vous dire qu'il y a un rassemblement contre le pass sanitaire dans les établissements publics. Ça se passera le 10 novembre, mercredi 10 novembre, à Le Mans, à 14h30, place de la République, dans le cadre d'une action nationale contre justement... qui montre le désaccord des personnels face à cette politique de surveillance de nos usagers durant toute la campagne électorale qui, je le rappelle, n'a toujours pas commencé. Et voilà, eh bien, je crois qu'on en a terminé, on est même carrément en retard, c'est pourquoi je vous dis allez, au revoir.